avec l'absolu. Une chose est vraie ou faux, c'est relatif. Donc, quand on regarde le monde, oui, bien sûr, tout ce qu'on vit, ça existe. Mais quand on regarde par le point de vue de l'absolu, seulement qu'on voit que ça n'a pas beaucoup d'existence, beaucoup de vérité. Ça, c'est la seule chose. Donc, on ne sait pas que ce n'est pas une philosophie de négation de l'existence. C'est tout ce que nous discutons, c'est pour mieux vivre. C'est tout ce que ça, il faut surtout jamais oublier, ce n'est pas pour provoquer la fuite, c'est-à-dire pour que tout est illusion, donc c'est pas la peine de lutter, quoi. Donc, c'est pas ça, c'est pour que la vie soit plus agréable. Donc, comment on peut approcher la vie pour que la vie soit bien pour soi et pour les autres? C'est une philosophie créative. Donc, quand on commence à entrer avec la pensée indienne, donc c'est tellement vaste, au début on va se perdre. C'est pour ça que c'est devenu une tradition. Quand on commence à poser des questions, on va chercher à mettre. Et pendant quelques années, en fait, on va passer pour se connaître. Donc la discipline entre les disciplines spirituelles a certains protocoles. C'est-à-dire, les premiers 3 ans, l'élève ne pose pas de questions, le maître observe. C'est-à-dire, tous les deux ont besoin de temps pour comprendre quelle est la capacité d'intégration de l'élève. Donc, on ne va pas rapidement verser un enseignement en disant « Ok, le monde en fait c'est une illusion, donc voilà, ça ne se fait pas comme ça. » Qu'est-ce que c'est le véritable enseignement? C'est apprendre à être. C'est pas du tout la connaissance, c'est apprendre à être. C'est parce qu'on avait oublié d'y être.
Mais être dans sa vie de tous les jours ou être dans l'enseignement?
Parce qu'être et pas être, c'est ça la question. Donc, ça vous avez déjà entendu cette phrase de Macbeth. Shakespeare a donné cette phrase qui est très profonde, imbibée de la culture indienne. Je ne sais pas quelle connexion, peut-être c'est sorti de lui-même ou il a entendu différemment. Être ou pas être. Donc aussitôt, notre existence est complètement modulée par les pensées, par notre passé, par toutes les opinions que nous portons, toutes les interprétations que nous avons par rapport à tout ce que nous vivons. Là, nous sommes dans le non-être. Non-être, c'est un mot. Je ne sais pas si ça se utilise en français ou pas, et on est déconnecté de l'être, être. C'est pour ça que la première rencontre aussi de Dieu dans l'Ancien Testament avec Moïse, Dieu lui-même il dit, je suis celui qui est, il se qualifie.
Donc si tu regardes quelque chose, tu regardes quelque chose avec des références d'avant, tu n'es pas dans l'être, c'est ça que tu veux dire? Si tu observes quelque chose sans être, je sais pas comment, il faut être neutre, je sais pas quoi. Tu n'es pas dans l'être.
Ouais. aussitôt il y a une interprétation. On est déconnecté. Quand je dis tu portes le boulevard bleu, c'est fini. Je ne suis plus dans la perception pure et claire. Donc il faut pouvoir regarder le monde comme un nouveau-né qui vient d'arriver. Ça, c'est possible seulement en maîtrise nos facultés intérieures. Il faut pouvoir arrêter les activités qui sont automatiques. On a appris à lire en ce moment, si vous regardez immédiatement le sens qui apparaît. On ne lit même pas comme un enfant. Un enfant, il identifie chaque alphabet. Après, on va identifier le mot. Et puis, deuxièmement, troisièmement, à la fin, on va capter le sens des phrases. Donc, on est tellement habitué que c'est une très rapide activité. Et donc, beaucoup d'activités à l'intérieur de nous sont devenues automatiques. On a besoin de quitter. Et il me semble que c'est pratiquement pas possible. Si vous ne rentrez pas à une discipline avec l'effort. C'est-à-dire, même pour la méditation, on ne peut pas discuter de la méditation si vous n'avez pas investi 10 000 heures. Et, c'est-à-dire, ça montre bien la difficulté devant nous, parce qu'on a besoin d'investir beaucoup, 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 mais par contre, comment, dans ces cas, on peut démocratiser ça? Tout le monde n'a pas besoin d'aller dans la Lune ou monter dans l'Everest. C'est l'humanité qui veut. Donc, quelques personnes, ça suffit pour que les autres, quand même, reçoivent une sorte de bénéfice. On ne cherche pas, on n'a pas besoin d'investir toute notre vie pour consacrer à atteindre l'éveil. Ceux qui ont fait ce chemin qui nous a apporté quand même certaines clartés. Cette clarté peut être utile pour le grand public. Donc il y a quand même, existe une possibilité d'amener la connaissance vers une sorte d'exotérisme. Donc il y a l'ésotérisme et l'exotérisme. C'est-à-dire, la plupart du temps, tout ce que je discute avec vous, c'est exotérisme. C'est-à-dire, rendre utile pour que vous puissiez appliquer dans votre vie sans changer énormément de choses, c'est-à-dire sans aller dans un ashram, quitter tel que j'avais fait quoi. Moi j'avais envie de faire ça et puis c'était le besoin d'adolescence aussi, et puis c'était l'enthousiasme inspiré par beaucoup de maîtres. Je veux absolument connaître tout ça, mais c'est pas une obligation. Et toutes les données que nous avons en ce moment disponibles, on peut appliquer pour que la vie soit plus agréable. Et tout ce que nous avons découvert jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire une discipline, une forme d'hygiène mentale, c'est-à-dire un point de vue où on peut l'utiliser pour regarder comment je vois mes amis, mon entourage, comment je regarde la nature. Donc j'ai répété mille fois, c'est-à-dire le monde, c'est toujours... C'est notre propre interprétation. Et donc, chacun... Chacun interprète ce monde à sa façon. Et donc, le monde que nous vivons, c'est notre propre création. Ça, c'est facile à comprendre. Et donc, quand on est en conflit avec le monde, et c'est un reflet de conflit avec soi-même. Et quand on prend conscience de ça, on peut rapidement régler ce conflit, sinon on va partir en combat. Partir en combat contre quelque chose, quoi. C'est toujours le faute, c'est voilà, l'État, l'économie, ou
l'autre.
C'est toujours l'autre, quoi. Donc, c'est cette forme de prise de conscience de soi, et ça va nous amener à certaines. Qui est propice à une action qui est juste.
Point de départ.
Nous avons découvert plein de choses, c'est quelque chose que nous avons passé ensemble. Et je vous avais parlé qu'on peut regarder la vie comme un jeu. Un jeu qui finit avec disparition du corps. Donc, chaque jeu, il y a des règles qui sont fixées. C'est-à-dire, le but des jeux, c'est arriver à la fin. Arriver à la fin.
Pas trop vite.
Ça va bon. Amener le jeu à la fin. Donc, par exemple, dans le foot, c'est le durée des temps.
Amener le jeu à la fin d'une façon la meilleure possible.
Non, c'est qualité.
Amener le jeu à la fin, c'est
non. Ça, c'est chacun va décider est-ce qu'on va, va finir en crash, on va finir en douceur, on va finir en feu d'artifice. Ça, c'est chacun peut orchestrer. Ça laisse votre imagination. Quelqu'un peut dire oui, je veux finir en martyr. Oui, il y en a qui décident. Hein. Comme Van Gogh, il ne voulait pas que l'amour soit un mystère, il voulait découvrir. Il était curieux. Il voulait savoir ce que c'est. Il y a plein de formes. C'est la question. Le fixer. Donc, dans un jeu d'échecs, c'est pas le durée. C'est le moment où le roi est à l'échec. Donc, dans notre histoire, c'est si on regarde vraiment, on a certaines. Nombre de petits bonhommes à jouer. Et la fin du jeu, c'est l'éveil. Donc, j'ai un petit bonhomme dans cette vie, c'est Servatma, je joue. Peut-être je vais arriver et puis c'est fini et je prends un autre. C'est un peu comme un jeu vidéo en fait. Donc, il y a deux plans. À l'intérieur de moi, il y a un autre être qui est en train d'appuyer sur le manette pour faire sauter, parler, agir, etc. Et ça, c'est une façon de regarder notre vie. Et ça peut donner une autre dimension. Donc, on n'est pas trop sérieux. C'est la difficulté de l'Occident. Depuis, je dirais, 300 ans, il y a une sorte d'adoration de la jeunesse. Adoration de la jeunesse. Jeunesse. On adore la jeunesse. On adore tout ce qui est efficace, tout ce qui est beau, tout ce qui est. C'est-à-dire, une partie de la vie, on apprécie, le reste, on refuse de regarder. Et ça nous a donné une très grande difficulté de regarder la vie dans sa globalité. Et ça empêche en fait de jouer toutes les phases de la vie. Être vieux, c'est fabuleux aussi. Être jeune, être un enfant, être adolescent. Et toutes les différentes phases, il y a 6 phases. Et toutes ces 6 phases, on a besoin de jouer vraiment Sinon, on va être trop au début de la vie, prospectif, après rétrospectif. C'est-à-dire quand on est jeune, adolescent, on veut regarder en l'avenir. Après, 50, 60, on commence à tourner le regard en arrière et puis on vit dans le regret et que tout est au milieu, quoi. Donc aussi, quand on est jeune, regardez, écoutez une personne âgée, elle va dire, mais quand j'étais jeune, vous savez ce que j'avais fait. C'est toujours en arrière, en arrière. Donc chaque phase, on n'arrive pas à vivre pleinement. Donc c'est le deuxième jeu, aspect du jeu, c'est, je vous avais parlé le premier, vous vous rappelez le 3? Non, vous avez déjà oublié.
Revenir.
Les trois... trois poisons?
Non, non, les trois jeux.
Les trois, les trois jeux.
Atma Krida, Atma Deti Kriya Bhakti. Premier aspect, on avait discuté. Ça veut dire on peut regarder notre être et jouir de soi. On avait parlé de ça. Et après, tout ce qu'on vit à travers les cinq sens, et ça c'est aussi un jeu.
On parle toujours des cinq sens, mais il y a un certain nombre de personnes qui en ont 4, 3, 2. Qu'est-ce qui... Ben, il y a les aveugles, il y a les sourds, il y a les gens qui ont perdu l'odorat, le goût.
Ça pose pas de soucis.
C'est idiot comme question.
Il y a Helen Keller, vous connaissez cette personne qui n'entendait pas, ne voyait pas, ne parlait pas. Elle a développé les autres sens. Et c'est toujours c'est comme ça, parce que les cinq sens sont vus par un sixième sens.
Dans cette phase-là, il y avait bien la connexion avec l'univers et les messages qui nous envoient. C'était ou alors c'est que tu l'avais ailleurs.
Il y a trois possibilités. Soit je tourne vers moi, et là il y a la jouissance de soi. Après, je regarde le monde extérieur en tant que reflet de soi, et là je apprécie également. Je vous avais parlé de des prismes, un côté lumière, de couleur, l'autre côté de la Donc, le deuxième phase, c'est de regarder ce spectacle cosmique qui se déroule devant nos yeux. Ça, c'est possible si vous appréciez la vie dans sa totalité. Dans sa totalité, ça veut dire, ça implique douleur, plaisir, vieillissement, maladie, tout ça. Donc c'est pas très logique de dire appréciez quand vous êtes malade, mais c'est tout à fait possible. Apprenez à également devenir ami avec les faces de la maladie.
Je me souviens une fois tu étais venu faire une conférence à Saint-Cyr, c'était sur l'émerveillement. Et tu nous avais parlé de qu'on s'émerveillait plus quand on voyait le soleil se lever le matin, quand on respirait. Tu disais votre souffle, c'est un émerveillement que le corps. Du coup, ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Quand on est aussi, par exemple, dans la maladie, on peut déjà être émerveillé de ce qui fonctionne bien à côté. En tout cas, on peut trouver des sources d'émerveillement malgré les difficultés qu'on peut avoir.
Oui, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est difficile de regarder, c'est super que je suis malade, mais c'est pas ça. Ça implique, la vie implique ça aussi. C'est-à-dire, notre corps, quand c'est fabriqué pour que ça s'use. C'est fabriqué pour que, quand on avance dans l'âge, qu'on perd la vitesse pour que les tigres peuvent le choper plus facilement. C'est-à-dire, on fait partie de cette écologie. Quoi. On était autrefois assez chassé par les autres. Donc c'est maintenant, bien sûr, il y a beaucoup qui sont en circulation, qui ne devaient pas être, parce qu'on avait beaucoup supprimé nos prédateurs. C'est pas mauvais, c'est drôle, mais c'est pas bon. C'est comme ça, la nature, la règle de la nature, c'est comme ça. La vitesse de lion est réglée en fonction de la vitesse de cerf. C'est-à-dire il peut attraper que les vieux et les malades pour que les troupeaux restent toujours en bonne santé. Ça, c'est l'écologie, donc nous, on fait partie de ça, mais après, le développement de notre civilisation humaine qui a beaucoup supprimé les prédateurs, donc maintenant, nous sommes notre propre prédateur. Mm-hmm. Ils sont dans des bureaux, quoi, donc on ne peut pas facilement les identifier. Ils sont avec leur costume cravate et on ne peut pas facilement...
Avant, c'était qui nos prédateurs?
Oui, il y a plein de prédateurs.
Non, mais pour nous.
Avant, c'était.
Les animaux.
Les animaux, les moustiques, les microbes.
Les moustiques, c'est toujours.
La haine. La haine. Comment on dit Oui, s'il y a beaucoup d'animaux qui vont manger, quoi.
Le moustique reste un prédateur important. C'est plus grand.
Avant, notre roi était notre prédateur.
Le roi.
Un prédateur.
Il y avait beaucoup de rois dans le monde, dans petites régions.
Les rois sont des prédateurs.
Avant, tu parlais d'avant les rois. Oui. Moi j'ai compris avant.
Non.
Mais il n'y a pas si longtemps.
Ouais, les rois aujourd'hui c'est pareil.
On peut le voir
en Corse.
Bien sûr,
ça ne change pas.
Ça change.
C'est un peu changé, mais
c'est le nom qui change. Peut-être même qu'avant, les gens étaient encore plus loin. Non, je retire.
Mais pourquoi tu dis c'est Jo?
Je. Pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'est pas une... C'est vrai que tu vas avoir mal à comprendre parce que dans le bouddhisme, il n'y a pas du tout cet aspect de je.
Le je.
Lila, c'est un concept 100% à lien à nous. Parce que si je dis Bouddha, oui, maladie, la vieillesse, c'est super. Mais Bouddha, en fait, il est parti à la recherche pour le remède de tous ces problèmes. Donc là, je suis en train de parler, mais c'est bien qu'on de voir les cheveux qui changent de couleur.
Moi, ça me fait plaisir. Quelqu'un qui a 10 ou 20 ans n'a pas envie d'entendre parler de ça.
J'ai ma grand-mère. J'ai beaucoup amusé avec ses peaux qui pendaient, qui cassaient ses
dentelles de grand-mère.
Mais c'est beau. Vous ne trouvez pas que c'est très beau. Et parce qu'il y a un autre regard. Mais si je n'avais pas cette occasion, que dans la France, que je n'avais pas vu à une personne âgée, et comment je vais intégrer ça une fois que moi, j'arrive à cet âge?
Là, on a vu la grand-mère d'adulte, et c'était un exemple incroyable de beauté, de vitalité, de présence. Alors qu'on ne parlait pas du tout la même langue.
Curiosité,
l'amour, ça devrait pas s'arranger. Puisque maintenant, les gens vivaient, les vieux avec les jeunes, maintenant c'est plus le cas. Donc c'est ça devrait pas s'arranger, je trouve.
C'est ça que j'étais en train de dire en Occident, et puis maintenant aussi dans les autres pays. La civilisation, c'est comme ça. Les parents éduquent bien leurs enfants, après, ils vont travailler ailleurs. Et une fois que les parents sont vieux, on les met dans des maisons de retraite. Mais je viens de recevoir une photo. Un couple, donc la mère elle a éduqué son fils, donc le rêve des Indiens c'est partir aux États-Unis. Lui il est parti aux États-Unis travailler, il n'a pas appelé sa mère pendant 2 ans. Et après, après, un jour, il arrive à la maison. En fait, il retrouve sa mère devant la télévision. Il n'y a que des os.
Que des
os.
Ah, des os. D'accord.
Elle
a dépéri, quoi.
Elle est morte. Ah oui, personne n'était au courant.
Mais la télé marchait encore.
Naturellement.
Je peux vous montrer cette photo. Est-ce que les voisins n'ont pas trop entendu l'odeur et... Personne ne posait des
questions. Ça arrive souvent.
Ça arrive.
En France, aussi, oui.
Monsieur, ça faisait 6 mois qu'il était dans sa maison. Personne ne s'inquiétait parce qu'il n'y avait pas de famille, pas de...
Bien sûr.
Solitude.
Donc, pour apprécier la vie, on a besoin de regarder la vie dans sa totalité. Avec tous ces aléas. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses. Ça implique la maladie, les accidents, les tracas, les difficultés. Mais tout ça, il faut voir un peu comme une histoire tragique. Et les tragédies, on apprécie bien aussi. Il y a des moments de bonheur, il y a des moments de douleur, mais il faut pouvoir regarder avec un très grand recul. Et c'est que le petit bonhomme que je fais vivre.
Je me demandais s'il ne faisait pas de tisane ici.
Tisane, elles ont
un problème de feu.
Il faut demander du thé
ou de l'eau chaude.
Non, il a demandé au chaud aussi.
Ils ont dit qu'il n'y avait pas de,
pas de gaz.
Les chauffe-eau.
Il y avait une gaz, était occupé par d'autres marmites. Oui.
Par d'autres marmites.
Il disait, il y a des gens qui veulent venir, c'est pour ça, ils sont tous occupés sur le téléphone. Donc, le groupe,
on ne sait pas encore. Non, on continue.
Ils font peut-être des bières. Allez.
On continue.
Il y a l'histoire du jeu là, qui n'était pas complètement
fini,
je trouve. La question de Kamchuk sur le jeu. Et ta réponse, toi, n'était pas finie.
Parce que c'est très hindou, cette idée de regarder la vie comme un petit jeu.
Là,
un petit jeu.
La vie comme un petit jeu.
On le spécifie encore comme jeu de Krishna. Krishna Lila. Donc, ça me oblige de vous parler de Krishna.
Sans pas obligé, hein.
Non, pas obligé, parce que c'est obligé, c'est-à-dire. C'est-à-dire, ça prend du temps. Il y a quelques jours, Christophe m'a parlé de. Me demander de différentes divinités. Donc, il y a trois niveaux de conscience qu'on peut identifier dans notre corps. On voit l'animal qui est en nous. Là, c'est le besoin de se nourrir, se reproduire, dormir. Ça se manifeste vraiment bien quand on peut attribuer, au lieu de dire ça c'est un instinct. Les hindous, ils l'ont attribué à un Brahman. C'est la force de la créativité, la force de la création. Après, il y a toujours la recherche de cohérence, l'ordre du monde. Ça c'est un travail sans cesse, on a besoin. Parce qu'on a besoin de donner une sorte de ligne de conduite dans les événements de notre vie. Sinon, on devient complètement fou. C'est-à-dire, ce que j'avais fait hier, aujourd'hui, demain, et quand on regarde, il y a une cohérence. Et cette cohérence, on attribue à notre divinité. C'est Vishnu. Vous avez écouté Mahabharata, il parlait aussi assez rapidement. Le troisième, il parlait de destruction, en fait, de destruction de tout ce qui est illusion. Ça, c'est Shiva, l'intelligence.
Ça, c'est Mahabharata, je ne sais pas si vous l'avez compris. Ils n'ont pas expliqué dans le même ordre que toi.
Non, il n'a pas utilisé le même mot.
Ordre.
Ordre. Est-ce que c'est important ?
L'ordre du monde ou cohérence ? C'est-à-dire, c'est une question de valeur, l'harmonie dans notre vie. Ça, c'est Vishnu. Vishnu représente aussi la mémoire. Donc, la vie existe parce qu'il y a la mémoire. ADN, c'est rien d'autre que la mémoire. C'est les souvenirs qui donnent un sens à ce que nous vivons. Donc, notre corps. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'était une mémoire qui était exprimée.
Et Vishnu et Shiva, ça fait une sorte d'équilibre?
Le troisième, c'est Shiva, c'est la dissolution. Parce que tout ce qui est créé va continuer une certaine durée de temps, va disparaître. Parce que la création n'est pas une véritable création. C'est comme si vous touchez une corde de guitare, un instrument de musique. Aussitôt que vous avez fait un petit geste, le corps disparaît. On ne peut plus. Et on va entendre le bruit, le son, la musique. Parce que ça vibre tellement vite qu'on ne le voit pas. La matière première disparaît. À la place, autre chose qui apparaît. Donc, je fais un bruit. Mais là, il n'y a rien. Aucun changement sur la matière. Mais le son est apparu. Ça restait pendant une certaine durée de temps et disparu. C'est comme ça. Donc il y a apparition, donc la création, il y a durée d'existence et disparition. Donc ces trois sont symbolisés par la danse de Shiva. Peut-être vous vous rappelez le statue de Shiva dans le sang. Donc dans une main, il y a un instrument de musique. Dans l'autre main, il y a le feu de la distraction. Et puis entre les deux, il y a la danse. Cette danse que je suis en train de parler.
C'est disparition ou transformation ? J'essayais de faire le parallèle avec l'énergie. Par exemple, l'exemple que tu prenais, c'est tu donnes de l'énergie, derrière il va y avoir un bruit. Effectivement, à la fin, c'est disparition. C'est pas transformation à autre chose. Quoi.
Non, ça, c'est où c'est parti. C'est parti là où donc Shiva, donc ces trois sont pas trois, c'est simplement on a donné les noms pour le distinguer. C'est toujours le mystère de la vie. Alors maintenant, pour que notre vie soit plus agréable, on va imaginer que c'est le jeu de Krishna. Krishna, c'est l'avatar de Vishnu. Vishnu, il dort. Et dans son rêve, il prend corps, comme ce qu'on fait. Quand on dort, notre corps reste couché. Et à l'intérieur de notre rêve, il y a un autre corps qui apparaît. Ça, c'est Krishna. Qui est Krishna? Krishna, c'est vous. Krishna, c'est nous. Et chacun de nous, c'est Krishna.
C'est-à-dire, on est. J'ai un rêve de quelqu'un.
Rêve de quelqu'un, mais c'est quelqu'un. Quelqu'un, c'est le vrai toi.
Ouais. Ah. Je ne comprends pas là.
Tu comprends pas.
Comme ça tout de suite. Hein.
Vrai toi.
Qui a compris?
Je ne sais pas comment il y a. L'exemple, c'est le rêve. Pendant le rêveur reste couché.
Oui.
Dans son rêve, il prend l'autre corps.
Oui.
Il y a un corps
qui vit dans un autre univers, dans un autre espace-temps. Oui. Et ce rêve disparaît. Et quand ce rêve disparaît, soit il y a un autre rêve, ou la personne qui est endormie se réveille. Oui. Donc, en ce moment, je suis dans le rêve de mon vrai soi. Alors, si ce rêve disparaît, je vais me retrouver dans ma
réalité.
Dans ma réalité.
véritable réalité. Donc, Krishna, il apparaît quand le rêve devient cauchemar.
Donc, Krishna était la rêve de Vishnu dont on ne doit pas connaître, on ne doit pas savoir. C'est seulement Vishnu qui doit connaître. Le reste, par exemple, quand je suis dans un rêve, vous ne pouvez pas me connaître. C'est seulement moi qui sais, j'étais avec vous. Mais vous ne savez pas que je suis avec vous. Mm. Donc, comment on a reconnu
Krishna? Quand le rêve devient cauchemar, l'ordre est menacé. Ça va pas. Le chaos menace la vie. Ça va pas. Alors, à ce moment-là, remettez dans une situation. Imaginez que nous avons des problèmes. Et on commence à rechercher. Où, d'où vient, comment c'est, tous ces problèmes, ces questionnements. Là, on va réaliser et qu'en fait, je suis est un représentant d'un autre. Ça veut dire, à l'intérieur de moi, je retrouve deux entités. Rappel, le passage silencieux. Donc, il y a un moi qui est apparent, il y a un autre moi qui est sous-jacent. C'est un autre moi qui est caché. Nous, on appelle le grand soi. Ça, c'est lui. Ça, c'est Vishnu. Vishnu, il est en sommeil. Mais il est en sommeil yogique. Ça veut dire qu'il n'est pas inconscient. Il sait ce qui se passe. Mais il ne peut pas venir directement. S'il se réveille, le rêve disparaît. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans son rêve, mais en tant que Krishna, Krishna. C'est-à-dire, l'éveil, c'est le moment quand le petit moi réalise je suis le parti étincelle de ce, l'autre. C'est pour ça que je vous avais demandé qu'est-ce que vous incarnez. Et la réponse, c'est vous êtes l'incarnation de cette intelligence cosmique. Si vous appréciez, vous acceptez ou pas, ça c'est votre choix, votre liberté. Mais le moment, j'accepte que je vois tellement clair que c'est pas autre chose, je suis l'incarnation de cette intelligence cosmique, à partir de ce moment-là, je suis Krishna. Et là, on peut jouer.
Et nous, on peut être là-bas, du coup. Les femmes, on peut être là-bas.
Donc, ces trois divinités sont toujours avec trois déesses. Donc, quand Vishnu incarne en tant que Krishna, il y a Radha avec. Quand Vishnu incarne en tant que Rama, il y a Sita avec. Quand Shiva, c'est toujours avec Parvati. Et Brahma, toujours avec Saraswati. Mais il n'y a que Vishnu qui fait des avatars. Shiva, il rêve pas. Parce qu'il dort. Shiva dort. C'est pour ça que
tu avais dit que Brahma il dormait et il se réveillait pour recréer le monde, c'est ça?
Donc ça c'est le grand cycle de création. C'est un jour de Brahma. C'est un Manandra. Manandra, ça veut dire le 4 Yuga. Ça c'est qu'un jour. Donc après, le créateur dort. Il se réveille, il recommence un deuxième manandra. Troisième, quatrième, comme ça, Brahma vit 100 ans. 100 ans de Brahma.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est des espaces de dons astronomiques extrêmement. Très, oui, si vous calculez, ça va faire beaucoup de zéros.
Oui, oui, oui. L'histoire de la graine dans un grand trou. Je vais expliquer pour se rendre compte qu'une année, c'était simplement une graine de blé dans une grande fosse comme ça.
Mais on peut prendre du temps, je peux vous montrer. Ça prend du temps en fait pour regarder cette. C'est comme ça d'ailleurs le mathématique était développé en Inde. Parce qu'on avait besoin de chiffres énormes pour représenter des espaces de temps. Très.
C'est une question. Voilà. Pour moi, par exemple, Shiva, Brahma, Vishnu, là, le derrière, ce qui est passé, on ne sait pas. Donc, maintenant, la vie, non, ça c'est la rêve de Vishnu. Nous sommes Vishnu.
Nous sommes incarnation. Tu es
incarnation de Vishnu.
Exact.
Et donc, par exemple, je suis incarnation de Vishnu. Je suis en train de rêver, c'est ça?
Non. Vishnu est en train de rêver.
Ah oui, voilà. Vishnu en train de rêver. Et puis, je suis une partie de Vishnu.
Tu es l'incarnation de Vishnu.
Voilà, l'incarnation, c'est pareil. Par exemple, quand on rêve, c'est nous. C'est moi qui rêve. Par exemple, je suis dans un monde. Par exemple, on est tout ensemble ici. Par exemple, c'est un rêve. Vous êtes là. En réalité, vous n'êtes pas là. C'est seulement moi qui est là. Vous êtes juste, c'est comme un magique.
Non, toi aussi dans le rêve.
Oui, je
suis. En toi, il y a deux. Est-ce que tu arrives à bien comprendre? En l'intérieur de toi, il y a deux dimensions. Mm-hmm. Une dimension qui est cosmique. Mm-hmm. L'autre, c'est le fragment. Ça, c'est toi. C'est ce corps, le psychisme, la conscience et toutes tes limites de la connaissance. Mm-hmm. Ça, c'est un aspect limité. L'autre aspect, c'est illimité. Mais ces deux sont toi.
Oui.
Mais tu n'es pas conscient de l'autre.
Oui, c'est ça. Par exemple, quand je suis dans un rêve, je ne sais pas, je suis en rêve.
Oui.
Mais pour moi, c'est réalité.
Oui.
Vous êtes là. En fait, vous n'êtes pas là.
Ni toi.
Oui, ni moi. Je suis en train de rêver. C'est ça?
Non. Celui qui rêve, et c'est ton être suprême. Mm-hmm. C'est celui qui.
Oui, voilà.
Ce que tu es, c'est la même entité, mais incarnée dans un autre corps.
Voilà. Oui, ça, c'est, j'ai compris.
Mais quand le rêve disparaît, mm-hmm. pas seulement les autres, toi aussi,
tout moi, disparaît. Oui.
Tu vas retrouver ton dimension véritable.
Oui, c'est ça. Par exemple, dans la joie, c'est-à-dire dans le rêve. En rêve ou je sais pas. Et c'est-à-dire, je suis en réalité, je suis en train de dormir. Donc, ce qui existe, c'est la rêve. C'est la deuxième dimension. Je sais pas de quoi. C'est ça. Et si je parle avec vous, ce que je fais avec vous, en réalité, ça n'existe pas, ni l'un ni l'autre. Donc, c'est que pourquoi on pratique? C'est pas nécessaire de pratiquer. On peut faire ce qu'on veut.
Tout à fait. Donc, il n'y a pas la notion de pratique. Mais qu'est-ce que c'est la pratique? C'est de regarder le monde de ce rêve. Mais apprécier un rêve tel qu'un rêve. Si vous êtes en théâtre en train de regarder une scène très compliquée, si vous riez ou si vous pleurez, ça veut dire que vous êtes complètement à l'intérieur de l'histoire. Donc on a fait une identification. Là on souffre. Donc pour apprécier, il ne faut pas oublier que c'est un théâtre cosmique. Donc une fois que on commence à jouer, et on est joueur. Et donc, si, devenez, c'est la deuxième partie, c'est devenir conscient que vous êtes en train de jouer un jeu.
Oui. Mais du coup, la nature de ce rêve, par exemple la scène que décrivait Concho ici, par qui elle est commandée? Est-ce que c'est le passager silencieux qui veut nous envoyer des signes et quelque part qui crée un monde pour nous, ou est-ce que c'est plus une dimension plus grande que ça, quoi?
Il y a une sorte d'interaction entre l'incarnation, entre Krishna et Vishnu, il y a une connexion. Et cette connexion, j'ai beaucoup apprécié quand Jean-Claude Carrière disait, Krishna n'a jamais cherché à dire je suis l'incarnation de Vishnu. Il n'a pas cherché à prouver, il n'a pas cherché à... Il restait... Il y avait qu'un petit sourire, quoi. Il laissait les autres deviner ce que... C'est-à-dire, il n'y a aucune volonté, on n'a pas besoin de s'affirmer que je suis l'incarnation vis-à-vis des autres. Ça suffit que nous, on sait discrètement par rapport aux autres. Si vous appréciez votre vie en tant qu'un jeu, ce n'est pas très intéressant que les autres sachent que vous êtes en train de jouer. Et si c'est comme ça, c'est fini, on ne va pas nous prendre. Comprenez? C'est-à-dire, si vous jouez un rôle, imaginons Bruce Willis fait un jeu, il prend un personnage dans le film, mais si son côté Bruce Willis, s'il commence à le penser à amener, là c'est fini, c'est le jeu, c'est plus important, ça marche plus. Le meilleur joueur, c'est lui qui arrive à vraiment oublier son identité et incarner le personnage. Là, ça devient très intéressant. Donc, il faut pouvoir incarner Krishna, c'est-à-dire le joueur. Mais on n'a pas besoin de dire aux autres, je suis en train de jouer le jeu de Krishna. Et simplement apprécier. Mais regardez, tout ce qui se passe, c'est un jeu. Tout ce qui se passe. Et vous aussi, en train de jouer un jeu.
Mais le problème ici, par exemple, Krishna, qui était dans la rêve, pas Krishna, Vishnu, était dans la rêve. Et avec Krishna, il y a millions, beaucoup de gens qui étaient illusions pour lui, pour Krishna. Par exemple, si je rêve, moi aussi, et puis le reste aussi, c'est des illusions. En fait, il n'existe pas, ni moi, ni le reste. Ça sert quoi de donner des enseignements, pratiques et des méditations et tout ça? Ça sert quoi, finalement? Voilà, finalement, on voit, après la rêve, on voit, si la rêve est finie, ça sert à rien.
En fait. C'est l'enseignement nécessaire si vous n'arrivez pas à jouer.
Mais en fait, par exemple, dans nous, c'est seulement quelqu'un qui rêve, pas de nous. Comment on peut dire de tout le monde dont on rêve? Par exemple, dans un rêve, si je rêve, vous êtes là. En fait, vous n'êtes pas là. C'est seulement moi, même moi pas. Il n'y a pas. Mais c'est quelque chose. C'est seulement le rôle de quelqu'un. Parler tout le monde, c'est juste... C'est illusion, non? Qu'est-ce que vous pensez?
Il n'y a que celui qui est conscient qu'il rêve, que les autres ils pensent comme ça.
Répondre, premièrement, il ne faut pas oublier tout ce que je dis, c'est pour apprécier notre vie.
C'est beau.
Apprécier
notre vie, d'accord, merci.
Deuxième, parce que la vie est difficile, on est d'accord. Pour répondre, on a cette idée d'univers parallèle. Nous sommes plusieurs, mais chacun est un univers à part entière. Nos univers se chevauchent. Vous existez dans mon univers et moi j'existe dans votre univers. Mais si un jour, si vous n'êtes plus là, je continuerai à exister. Je suis entièrement indépendant.
Mais c'est-à-dire, c'est pas un rêve. Si ce n'est pas un rêve, oui, je suis d'accord. Par exemple, on est chacun entité. Voilà. Si c'est un rêve, le
vrai, ça existe. Par exemple, si je rêve ce nuit-là, écoutez, je peux voir vous tout. Mais en ce moment-là, en fait, c'est seulement moi. Vous n'êtes pas là.
Oui. C'est ça. Donc, il y a deux façons de regarder. Deux façons de regarder. Soit je dis, je suis la seule vérité, que les autres sont illusions. C'est-à-dire.
Non, je parlais de la rêve.
Oui, c'est ce que
l'exemple de rêve. Si c'est comme ça, malheureusement, je ne sais pas.
Et, mais par contre, dans mon rêve, si quelqu'un me parle, et cette parole est amenée par qui? Je rêve.
Quelqu'un interagit avec toi dans ton rêve.
En fait, c'est mon. C'est mon. Comment ça se fait? C'est illusion ou je sais pas de quoi. C'est manifestation de mon esprit.
C'est-à-dire,
c'est une imagination. Par exemple, si je imagine, quelqu'un me parle. Je ne sais pas, raconte une histoire. Mais en fait, c'est l'histoire de moi. C'est lui n'existe pas.
C'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire, si je rêve quelqu'un, je rêve de toi.
Oui.
Toutes tes paroles, en fait, c'est moi-même qui dis.
Oui, voilà.
Donc, c'est ainsi qu'on peut regarder le monde comme le reflet de soi. Et chaque personne sont de différents aspects de moi-même. Et donc là, ça devient intéressant, ce jeu. C'est-à-dire, si je dis que vous n'existez pas, vous êtes que des fantômes, c'est un non-respect de vous. Ça, quand ça devient, vous êtes mes reflets, donc mon amour pour moi est égal à l'amour que j'ai pour vous. Vous comprenez?
Je comprends, mais ça sert quoi à lui? Parce que ça n'existe pas.
Si, c'est parce que lui existe. Toi, tu existes en tant qu'un univers tout entier. Pour toi.
Oui.
Mais je ne peux pas savoir ce que tu es. Je ne peux qu'avoir une idée de toi par rapport à mes ressentis. Je parle de tes souffrances. Et puis, moi, j'imagine les situations que moi, j'avais vécues. Et puis, je fais un parallèle. Et puis je me dis, peut-être c'est ça que tu avais vécu. Mais je connais que moi, ma vie.
Mais, encore, c'est rien à voir avec le rêve. S'il y a d'autres entités, moi et toi, la rêve, ça n'existe plus. L'exemple de rêve, par exemple, comme le Krishna. Krishna qui était le... qui était, comment ça s'appelle, Vishnu. En ce cas-là, en fait, ça ne sert pas.
Alors,
si c'est tout le monde, par exemple, dans la rêve de Krishna, il y avait, je ne sais pas, de plusieurs personnes, mais tout était différent entité, ce n'était pas un rêve.
Alors, il faut comprendre que...
Moi, je n'ai pas
si tu n'arrives pas à comprendre, je sais pourquoi. Je vais prendre un exemple. On ne connaissait pas sur l'atome. L'atome. Donc, dans différentes époques, comme Niels Bohr, il y a plein de scientifiques qui ont proposé de différents modèles. Le modèle que nous avons en ce moment, c'est un noyau avec
protons,
neutrons et d'autres particules aussi dedans. Et tout autour, il y a
des électrons qui gravitent.
Mais tout ce qu'on dit, il n'y a pas certitude. On imagine qu'il y a quelque chose sphérique qui tourne, qui tourne, tout ça. Ça, c'est un modèle. La vérité, on ne sait pas. Mais ce modèle sert quand même pour faire une bombe atomique. D'accord? Mais on n'a absolument aucune certitude si c'est vraiment comme ça. C'est pareil, notre objectif c'est d'avoir une vie de paix, de l'harmonie et de la joie. Pour cela, on a besoin d'une façon de penser qui nous permet de vivre correctement. On ne cherche pas la vérité absolue. On n'a s'appelle sotériologie. Ça veut dire moksha shastra, la science de l'éveil. C'est tout ce que je dis, c'est que la science de l'éveil. Comment on peut être heureux? D'accord? Ça, c'est la première chose. Pour cela, on va prendre un cheminement de pensée. Ce cheminement de pensée est orienté sur l'individu. Ça veut dire, un individu, je vais prendre moi comme exemple, je suis dans le centre. J'existe, je n'ai pas besoin des autres pour savoir si j'existe ou pas. Je peux croire en Dieu ou pas, mais par contre, je ne peux pas dire que je n'existe pas. D'accord? Donc, j'ai une première vérité qui n'est pas questionnable. C'est bien fondé. On appelle un axiome. C'est-à-dire A égale A. Ça-ci. Ou A égale B, B égale C, donc A égale C. Ça, on n'a pas besoin de douter sur ça. Maintenant, je ne vois pas mon début, je ne vois pas que je change ma conscience, mon corps change. Et je ne vois pas si je vais disparaître un jour ou pas. De toute façon, une chose c'est clair, j'existe. Et puis, autour de moi, je vois un monde qui change. Donc, je vois changement. C'est lui qui voit, c'est moi, qui n'est pas dans le changement. Vous comprenez maintenant? Une partie change, l'autre partie ne change pas. Dans le bouddhisme, ces deuxième partie n'existe pas. Hein, parce qu'il n'y a que le changement, anitya. Dans l'hindouisme, il y a le deux. Donc le soi.
Dans le bouddhisme, ça existe. Dans le bouddhisme, par rapport à nous, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas c'est un rêve. On ne dit pas c'est un jour. Chez nous, on est tout. C'est une entité propre, comme on dit plein. Et puis, c'est un peu comme ça. C'est vrai, c'est notre, à cause de notre karma, on est un peu comme dans un rêve, bien sûr. Se continuer. Sérieusement, si on. Par exemple, si je suis en train de dormir, s'il y a un réveil, un nom. Je sais pas de
réveiller.
Ça, on doit faire. Sinon, on va continuer à rêver longtemps. C'est-à-dire pratiquer absolument, sérieusement, avec soi-même et avec les restes. Si on continue à pratiquer, c'est possible. On pourra, comment dire, la rêve, ça arrête. Ça peut arrêter. Sinon, ça va continuer. Millions d'années, si on continue comme la vérité. En fait, c'est pas le vrai. C'est ça,
c'est point de vue bouddhiste qu'on comprend très bien. Donc l'éveil est important parce que nous sommes dans un rêve, donc il faut réveiller. Ça, c'est ok. Maintenant, on est en train de parler de jeux cosmiques interminables. On n'a plus besoin de sortir de jeu parce que on apprécie tellement ce jeu, on peut continuer à jouer. Ce n'est pas le même point de vue. Hein. C'est-à-dire, comme dans toute autre vie, Krishna il dit, voilà, je meurs. C'est-à-dire, la mort n'est pas la fin de ce jeu. Le jeu continue, comme le petit bonhomme, le nombre de petits bonhommes qu'on a dans le jeu vidéo, voilà, un qui tombe et puis on continue le jeu. On peut continuer le jeu jusqu'au qu'il y a le plaisir de jouer. On peut arrêter de jouer quand il n'y a plus de plaisir. Et dans ce point de vue là, c'est pas, j'ai pas envie de sortir de ce jeu. Je veux continuer à jouer ce jeu divin.
Mais c'est-à-dire, si
naissance, croissance, dégradation, la mort, encore et encore. Donc le samsara, au lieu de regarder comme un truc infernal, on va le regarder comme un super jeu.
Oui. Mais le problème, c'est Il y a des certains qui veulent jouer avec les plus éduqués, les gens, par exemple, il y a beaucoup de musulmans. Mais c'est juste. C'est juste, non? C'est un jeu.
C'est un jeu.
Est-ce que...
C'est un jeu, en fait. Mmh.
Est-ce que
donc, qu'est-ce qu'il y a de problème?
Il n'y a pas de problème.
Donc, nous, qu'est-ce qu'il y a? On a essayé de changer ce point de vue. On dit c'est faux. Mais pourquoi on dit faux? C'est un jeu.
Oui, mais je vais répondre.
Est-ce que tu aurais des...
Je vais répondre à celle-là. N'oublie pas tes questions. Pendant la guerre de Mahabharata, on lui demande à Krishna pourquoi tu cherches la paix tout en sachant qu'on ne peut pas obtenir la paix. On lui pose les questions. Après, il me dit, et il dit chacun doit tenter jusqu'au bout. Chacun doit aller jusqu'au bout de ses limites. C'est-à-dire, même on sait qu'on ne peut pas obtenir la paix, on doit travailler pour la paix. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que nous, nous sommes alignés par la droiture dans le dharma. Sinon, on est dans le faux. Et c'est pour ça que toute la philosophie est basée sur ça, c'est-à-dire, peu importe le résultat, il faut agir comme il faut. La défaite et la victoire s'évalent. C'est-à-dire, on ne doit pas chercher le résultat, mais on doit chercher à agir que l'action doit être juste. C'est-à-dire, dans le lila, c'est-à-dire, c'est pas, peu importe si on a gagné ou pas, mais comment on a joué, et qui est beaucoup plus important.
Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est aller vers là, c'est-à-dire que là, c'est plus précis ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que moi, je voulais savoir si tu avais des exemples, enfin, des exemples précis qui, où tu aurais des réponses qui expliquent qu'on est en train de jouer. Quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Là, tu viens de dire quelque chose. Peu importe le but, c'est la façon de...
C'est juste le comportement qui est important.
Donc ça, ça me parle. Parce que c'est concret, on peut l'appliquer à plein de choses. Pour ça, je voulais savoir si tu avais des exemples, parce que c'est très général, j'ai du mal à suivre. Donc, avec des exemples, ça peut être plus précis, plus facile. Tu vois.
Et tu m'avais dit, Sarah, que ça, c'était l'objet de la Bhagavad Gita, c'est ça? Rechercher l'action juste, c'est ça? Essayer de recoller les morceaux.
Non, mais l'action, je me suis pas trompé. Quand ce que tu as dit en dernier, c'est peu importe où tu vas, ce qui est important, c'est la façon, enfin, ce que tu mets en œuvre.
Oui.
Ça, c'est joué.
Exemple.
Je disais que ce que tu venais de dire, après, c'est une ligne de conduite qui oriente toutes les actions dans la vie.
Ouais. Comme tu disais, moi, je trouve que c'est. Enfin, je comprends tout à fait ça. Par contre, le fait de prendre la vie comme un jeu, ça j'ai beaucoup plus de mal à l'intégrer aussi. Prendre la vie comme un jeu.
La culture judéo-chrétienne,
Alors, pour exemple, je prends un vrai exemple. J'ai connu une coiffeuse. Elle n'aimait pas son travail. Pendant qu'elle travaille, elle toujours rêvait de ses vacances. Donc elle me dit, heureusement, je pense de l'Inde, parce qu'elle veut venir en Inde. Donc je pense, pendant que je travaille, je pense à l'Inde, elle fait tout le temps. Ça lui aide à passer ce moment. Donc, à la fin de travail, elle a de l'argent, elle arrête de travailler, elle vient. Mais quand elle est en Inde, dans les vacances, qu'est-ce qu'elle pense?
Travail. Au retour.
Et chaque jour, voilà, elle a 2 semaines, 14, 13.
Il y en a d'autres qui font.
Oui, c'est fou. Il a perdu.
Alors, c'est-à-dire la difficulté de projeter sur le résultat de l'action nous empêche de vivre pleinement l'instant.
Donc, Oui, mais ça, c'est le constat.
Ça, c'est
un constat.
C'est un constat.
Après, il faut savoir qu'est-ce qu'elle peut faire, la confuse.
Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut, si elle a appliqué les principes de yoga, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va...
Vers qu'est-ce qu'elle pourrait faire, quoi.
Elle peut entièrement oublier le résultat de son action, ça veut dire le salaire, qui se présente comme le vacances. C'est le fruit de l'action. Elle doit concentrer sur les gestes.
Les gestes, oui.
Et puis elle venait à la maison avec le coupure sur le doigt. Parce qu'elle
n'était pas concentrée. Quoi.
Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre conscience? On est coupé en plusieurs morceaux. Je suis là en train de travailler, mais mon esprit est ailleurs.
Il y a un problème de concentration.
De présence.
Alors pour cela, on a besoin de comprendre quel est le dharma. Parce qu'elle n'est pas née pour devenir coiffeuse. Donc son action ne correspondait pas. Si c'était son dharma, ça veut dire qu'elle est née pour être coiffeuse, dans ces cas, elle aurait régalé.
C'est 21h40.
Ah oui.
Ça fait une heure.
La coiffeuse n'était pas dans l'instant présent. Elle n'était pas dans l'amour du geste qu'elle faisait. Elle n'était pas avec la personne qu'elle coiffait.
Et puis mon exemple. Ma vie, pendant une très très longue partie de ma vie, était comme ça. J'attendais à arriver à quelque chose. C'est très commun, on est tous comme ça. Mais il fallait que j'abandonne le modèle de bonheur que j'entretenais dans ma tête. Ça c'était... décisif pour que j'apprécie chacun instant de ma vie. Parce que j'ai toujours attendu que quelque chose arrive. Donc, pendant que je travaille, ou pendant que j'ai regardé l'heure, parce que c'est le bonheur était après, quoi. Donc, quand on travaille, c'est le week-end, oui, on va s'amuser pendant le week-end, et après, ça veut dire, on fait comme des... des dauphins, quoi. Donc, un peu sous l'eau et puis un peu dans l'air. Et il y a des moments de vie, il y a des moments de mort. Où on meurt dans le travail et on vit dans les vacances. Donc ça, c'était des morceaux de vie, quoi. Donc, il faut pouvoir vivre tout le temps. Être heureux dans tout instant. Pour cela, il fallait entièrement anéantir toutes les projections de la bannière. Et pour cela, pourquoi j'avais fait ça? Parce que je n'aimais pas mon présent. Et pour rester ici et maintenant, on a besoin d'aimer le présent. Pour pouvoir aimer le présent, il faut embellir le présent avec plein de choses qu'on aime. Donc, entourer avec des gens que vous aimez.
Ça aussi, je pense... concept, je aussi, tout le temps. Par exemple, le bonheur qui va venir si j'ai ça. Ça aussi des concepts qui ont rôle, en fait. Et c'est pour ça qu'on pense aussi.
Donc, on doit éliminer certains mots. Donc, j'ai déjà discuté. Le mais, si, il faut, peut-être. Il y a plein de mots comme ça dans notre langage courant qui nous
J'ai une question personnelle, du coup, ça va, parce que je comprends que du coup il faut vraiment profiter du présent et pas se projeter dans le futur, parce que sinon on n'est jamais heureux. Pour autant, toi, tu as souvent des projets. Donc, comment tu organises tes moments où tu es dans le présent et tes moments où tu as besoin, malgré tout, de construire, quoi, un petit peu l'avenir, sans être obligé de le faire.
Ce qui m'a aidé, c'est un long discours de Krishnamurti que tu peux trouver. sur YouTube, tu tapes qu'est-ce que c'est l'action si tout le temps est maintenant. Si vous cherchez ce titre, qu'est-ce que c'est l'action? Qu'est-ce que c'est l'action si tout le temps est maintenant? C'est-à-dire, il développe longuement, donc je vous laisse approfondir. Le passé est présent dans le présent.
Passé est présent dans le présent.
C'est tout ce que j'avais vécu est présent maintenant. Mm-hmm. Et le futur est décidé à chaque instant.
Oui, c'est vrai.
Donc, le passé, le futur, est intégré dans le présent. Présent. Alors, ça, c'est.
Le futur est décidé dans le présent.
Oui. Donc, mon passé, donc au lieu de voir le temps comme quelque chose de linéaire, ça devient un bloc. Mmh. Alors, je vis dans cette façon-là. C'est-à-dire, mon futur, je dessine aujourd'hui. Et ça se passe maintenant. Mmh. Tous mes projets sont dans le présent. Mmh. Plus que j'en parle de mes rêves, ça devient une réalité. Parce que je dessine mon avenir maintenant, mais je ne quitte pas maintenant.
Oui. C'est-à-dire, on ne fait pas des projets ou...
Si, si, le projet se fait toujours dans le présent.
C'est le principe de vie.
Plutôt que de te dire demain, je vais passer une bonne journée.
C'est le principe du projet.
C'est mes projets.
C'est-à-dire, s'il y a un projet qui ça va compléter dans 3 ans ou 4 ans. Dans ce moment-là, on ne doit pas penser de...
Oui. Comment faire des projets sans trop y penser?
Non. Mes projets m'alimentent, embellissent mon présent, qui donne un sens aujourd'hui. C'est mes projets me donnent beaucoup de plaisir.
Oui, mais il ne faut pas qu'ils t'en donnent trop. sinon, tu vas abandonner le présent.
Non. Parce que c'est maintenant ça se passe.
Il ne faut pas que tes projets soient plus intéressants que ce que tu vis aujourd'hui.
Non.
Ça ne veut pas dire ça.
Non. C'est mes projets qui rend mon présent plus intéressant.
D'accord.
Par exemple, aujourd'hui, j'ai regardé les tentes là-bas.
J'ai compris. Le fait de... Excuse-moi, je te coupe. Le fait de préparer quelque chose, par exemple, qui va se passer dans 2 mois, le fait simplement de préparer, sans penser à ce qui va se passer, c'est ça.
C'est ça, j'ai appris ça et c'est intéressant.
C'est ça que tu veux dire?
Oui. Mmh. C'est-à-dire, tout le temps, je suis. Le présent devient très riche. Mmh. Parce que je regarde. Même ici, là, je regarde le bambou. On a beaucoup de bambou. Je me dis, mais c'est super, je peux faire quelque chose comme ça.
Je reviendrai un peu en arrière. Il ne faut pas être dans la projection du résultat de ses actions.
C'est le fruit de l'action. Le mot qu'on utilise, c'est le fruit de l'action. Ça veut dire la jouissance. Et c'est très important. Je n'ai pas évoqué ça. Ça veut dire, demain, je serai heureux. Ça, c'est le catastrophe. C'est toute la religion nous fait ça, ce coup, qui nous a entièrement privés de plaisir de l'instant. C'est le bonheur, on ne peut pas attendre. Si je suis heureux, c'est maintenant, pas demain.
Pas le résultat.
Il y a un proverbe là-dessus qui dit on est plus heureux en gravissant la montagne qu'en atteignant le sommet.
Question de heureux et tout ça. C'est par exemple, je veux acheter une maison dans 4 ans. Dans ce moment-là, comment je fais maintenant?
Pourquoi tu dis dans 4 ans?
Ben, ça. Par exemple, tu fais une projection sur. Je ne peux pas acheter maintenant, je n'ai pas l'argent.
Mais là, tu vas te donner les moyens.
Peut-être jusqu'à 4-1, j'ai suffisamment d'argent.
Et donc, tu vas t'organiser maintenant pour.
Et donc, et ben, par exemple, si on ne va pas dans le futur, je ne peux pas compter. Il y a un train de comptabilité à vie.
Mais non,
arrivé là-bas.
Non, non, compte choc, mais pour acheter ta maison, tu auras besoin de sous. Imagine, tu vas encadrer un groupe, le nôtre, et tu vas prendre plaisir en encadrant ce groupe et en faisant ce travail. Et ça, ça contribuera à ton projet. Dans ton action, tu vas prendre du plaisir.
Là, il y a un petit truc, là. C'est intéressant que tu dis cet exemple. C'est une catastrophe, ce que tu dis. C'est-à-dire, je n'ai pas une maison, et je vais commencer à économiser l'argent, et au bout de 4 ans, j'aurai une maison où je serai heureux. Je fonctionnais comme ça.
Non, non, mais je ne parlais pas de heureux. Ouais, c'est nécessité. Ouais. C'est la nécessité.
C'est un projet.
Mais c'est-à-dire, je parlais de dans notre vie, donc, par exemple, pour un enfant, d'être certaines choses et tout ça dans la vie, c'est on a besoin de faire certaines choses.
Projection. Si tu fais comme ça, c'est terrible. Tu remets à demain le bonheur.
Alors, si on veut une maison,
mais
comment
non.
C'est un projet.
Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je voulais savoir juste comment on fait.
Voilà,
c'est ça.
C'est une très 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 bonne question parce que c'est très très pratique parce que je vois beaucoup de gens font ça et ça fait travailler les banques et beaucoup de gens gagnent leur vie très facilement avec ça. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On va emprunter l'argent, donc on a immédiatement la maison et puis pendant 20, 30 ans, on va travailler pour ce système. Ça, c'est notre réalité actuelle.
Oui, mais par exemple, toi, en Inde, tu as construit des choses.
Bien sûr.
Donc, tu as construit des maisons, même si c'était pas
pour toi. Par exemple, comment tu fais?
Alors, donc...
comme ça, on peut faire.
On revient.
Exactement.
Oui.
Au départ. Hein.
Moi, mon bonheur... En tout cas, je fonctionnais aussi comme vous, hein, comme tout le monde. Et après, l'étude et l'intégration de tous les principes de yoga qui m'a aidé à apprécier l'action. Je ne cherche pas autre bonheur. Parce que tout ce que je fais, ça c'est la seule chose qui me rend heureux. Mes actions, ce que je suis en train de faire, c'est la seule source de mon bonheur.
Il y a un truc que je maîtrise pas bien non plus, c'est quand on peut très bien faire les choses au présent, mais quand on veut quelque chose pour le futur, souvent il y a des histoires de délai.
Oui.
Et ça peut être gênant.
Regarde ma vie. Si je dis, ok, je vais faire un tour en France, je vais gagner un petit peu d'argent et je vais retourner en Inde pour vivre. Dans ces cas, ce moment de ma vie, c'est une catastrophe. Je ne suis pas là, ici, pleinement. Parce que j'attends le retour. Et là, je perds le bonheur de l'instant. Donc, jamais séparer entre le fruit de l'action et l'action.
Non, ce que je veux dire, c'est que...
Le lien, il doit être plus fort, là, que la projection.
Pour certaines choses, si tu veux prévoir des choses... Même si tu travailles dans le moment, je pense qu'il y a des choses que si tu fais trop tard, ça ne pourra pas se passer, ou trop vite, ça ne pourra pas se passer. Il y a une histoire comme ça.
Oui, ça c'est pas assez.
Ah oui, mais si jamais si tu penses à ça, c'est foutu, tu n'es plus dans le présent.
Je sais pas. Une chose, je fais très attention de faire des choses que j'aime faire.
D'abord.
C'est très important. Après, le résultat, c'est peu importe. C'est priorité, c'est est-ce que je suis en train de vivre quelque chose d'intéressant? Parce que je suis en train de créer un passé. Chacun en train de créer un passé. Si c'est passé, le passé, si c'est pas agréable, c'est lourd.
On va passer... On va mal faire ce présent. Le lien le plus important.
Du coup, je voulais essayer de reformuler ce que tu disais, c'est-à-dire que les actions qu'on fait dans l'instant présent, on a en tête qu'elles contribuent à un futur projet, parce qu'il faut quand même avoir modélisé ce projet,
Par contre, il faut qu'au moment où on les vive, ce qu'on fait à l'instant présent et reste plus important pour nous que le projet final.
Exact.
Tout à fait, voilà.
Exact.
Le lien le plus c'est important
que,
est là.
C'est ça que je voulais dire.
Il faut faire passer. Oui. C'est pas simple.
J'ai bien connu ça par moment dans l'action politique ou l'action associative. Je me rappelle, il y a des fois où mon entourage je me disait, mais arrête, ne va pas te présenter à cette élection. C'est sûr que tu vas, pas, que tu vas perdre. Alors qu'il me semblait un peu, et j'y suis allé, je me suis présenté à cette élection parce que pour moi, ce qui était important, c'était de porter des idées, des valeurs, de les défendre et d'essayer de les faire passer. Après, je n'ai pas été élu. Ouais. Mais c'était pas le.
Je
l'ai contacté dans des moments comme ça. L'action associative, c'est pareil. Des fois, on porte des projets, on porte des idées, on se fait de la sensibilisation et des fois, ben, on n'arrive pas au projet. Mais ce n'est pas forcément toujours ce qui est important. C'est des idées qui ont essaimé, des choses.
Après,
je l'ai contacté là-dedans, mais des fois, ce n'est pas facile non plus. Quand même.
Pour répondre aussi, dans ces cas, comment je peux gagner ma maison? C'est ça.
Ouais.
Et étonnamment, c'est intéressant. Si vous vivez chaque instant dans la joie, dans le bonheur,
dans le présent,
les projets vont s'aboutir. Les projets vont s'aboutir de façon miraculeuse.
Ah oui.
Ça, c'est, je ne peux pas expliquer comment, mais je crois le bonheur attire le bonheur.
Mais là, si tu étais venu dans notre groupe faire le guide pour avoir de l'argent pour acheter ta maison, ça aurait peut-être pas marché. Alors tu le fais avec beaucoup d'amour.
On doit garder des rêves comme ça ou pas? Mais si on garde des rêves comme ça, ici, c'est hors de présent en fait. C'est ce que je pensais.
C'est un but lointain, secondaire.
On a tous des rêves. J'ai aussi des rêves impossibles. Quoi. Bien sûr, je veux nettoyer la terre tout entier.
Mais tout le monde,
c'est en septembre, c'est le 14 septembre, je crois. Qui est la planète. Il y a une journée spéciale mondiale.
On distribue des seaux, des pelles et des râteaux pour.
Oui. Tu pourras faire.
Ça anime mon intérieur. Et, mais il faut toujours donner des objectifs vraiment impossibles. C'est parce que sans le rêve, on ne peut pas vivre.
C'est un peu complexe. Un peu complexe. Il nous faut. Le rêve nous porte, mais c'est quand même l'instant présent qui fait que.
C'est plus avant ton rêve.
Il y a une subtilité là.
Ouais, notre présence, c'est les inquiétudes d'hier.
Notre présence, c'est.
L'inquiétude d'hier.
L'inquiétude d'hier.
Non, parce que le rêve, quand tu as dit que aujourd'hui tu travaillais tu travailles dans le présent et que tu voulais t'attacher au présent, quelque chose en toi te dit que tu prépares bien le futur.
Oui.
Donc c'est du rêve.
Mais tu l'as ramené.
C'est rêve.
J'ai expliqué déjà.
Tu l'as ramené.
C'est intégrer le passé, voilà. le futur dans le présent.
Tu le sais inconsciemment que ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour plus tard aussi, pas que pour aujourd'hui.
Oui.
Donc
c'est
du rêve.
C'est jouir. Donc notre. L'autre sujet, c'est jouissance.
Oui, j'ai pas dit
la jouissance, fait. C'est toujours dans l'instant.
Oui.
Donc, je ne m'occupe pas
de. Tu as dit que tu étais conscient que quand tu étais dans le présent, tu faisais des actions présentes qui préparaient le futur. Tu le sais, ça.
Ouais.
Oui, mais tu
le
sais
si
pas.
Si tu prépares le futur, ça veut dire que tu travailles pour tes rêves.
Bien sûr, les rêves sont aussi importants.
Donc,
mais la joie. C'est présent.
Oui.
J'insiste sur ça. Donc, si demain, si je dis demain je serai heureux, là c'est fini.
On a plein d'exemples où la chose qu'on avait idéalisée, comme par exemple ses vacances, quoi. C'est quelqu'un qui aurait idéalisé ses vacances. Souvent, c'est moins bien que ce qu'il avait.
Ah oui, il faut pas. Souvent, l'inattendu est mieux.
C'est un peu comme le fantasme. Fantasme des choses, mais quand on est dans la réalité.
C'est quoi la dernière phrase que tu as dit? Demain, si je dis demain, je suis heureux, je serai pas bien.
Si je pense que demain je serai heureux,
oui.
Là c'est une catastrophe.
D'accord. Donc je travaille aujourd'hui pour être Je suis pleinement conscient.
Je suis heureux maintenant.
Non, pour être heureux maintenant.
Maintenant, je suis heureux maintenant. Pour être heureux maintenant, mais entre parenthèses aussi.
Mais c'est pas du tout occidental, hein, parce que cette pensée, c'est très différent. Même dans les paroles de Jésus, on trouve plein de choses similaires. Ouais. Regarde les oiseaux, il est au magasin. Alors, il y a beaucoup de phrases. Mais par contre, la culture, c'est toujours préparation pour demain.
Alors, je recommence. Je travaille pour aujourd'hui, pour être heureux tout de suite, mais sous-entendu, ça va m'aider pour demain.
Eh ben, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que le demain, ce sera le aujourd'hui.
Et tous les jours, c'est aujourd'hui.
En fait, tu donnes l'impression de décrire que tu prends plaisir aujourd'hui,
parce qu'on s'occupe
en ayant en tête que demain, sera.
Alors j'ai mal exprimé. Je me suis mal exprimé. C'est, on n'a plus besoin de s'occuper du demain puisque on sait qu'on travaille pour le demain.
Non.
Tu travailles pour le présent.
Oui.
Et demain.
Bah, t'as pas besoin d'y penser.
Tu seras à nouveau en train de travailler dans le présent. Oui. Donc ce sera pas un demain, ce sera le présent.
C'est pas facile d'exprimer. Si tu travailles pour le présent, t'as plus besoin de penser au demain.
Ça se clarifie avec Bhagavad Gita, quand l'action juste. Si vous êtes dans l'action juste, le futur, vous n'avez pas besoin de s'inquiéter.
Oui, mais quand tu es dans l'action juste,
c'est-à-dire
est un projet qui aboutit pas, auquel tu tiens vraiment, qui aboutit pas. C'est neutre, enfin, ça te dérange pas.
Tu vas le corriger au jour le jour, peut-être.
Non, mais tu es dans l'action juste.
Je reviens sur quelque chose que je vous avais déjà parlé. Mes projets, même si je dis c'est des projets, ils sont nés de présent. Je vous avais expliqué tout ça. C'est-à-dire, c'est vraiment le yoga, hein, de base de karma yoga. C'est de ne pas commencer une action. J'attends que l'univers me dise.
Oui, tu as un moment donné, tu avais senti que c'était le moment.
Et tu nous avais dit aussi que si on n'était pas dans l'action juste, notre passager silencieux allait nous envoyer des messages il n'allait pas nous interdire, mais il allait nous envoyer des signes. Si on arrive à communiquer avec lui.
Et chaque fois, quand il y a un échec, dans ma vie, il y a aussi, hein, il y a eu plein d'échecs, il y a quand même une leçon.
Oui, bien sûr, au contraire. On tire plus d'enseignement des échecs que des réussites. La réussite, ça passe. Mais en même temps.
Je crois que il est sur sa maison, là.
Mais n'importe quel projet, dans notre avis, mais la présence, oui, on est sur le présent, c'est que maintenant il y a la table, il y a les gens. Présent, c'est présent, ça. Si j'ai besoin de quelque chose pour ma maison, ou je sais pas, comment on peut faire ça?
Est-ce que tu es heureux là, un instant là?
Oui, c'est ça le jeudi. Soit on ne doit pas voir complètement, pas du tout des projets. Voilà, donc en ce moment-là, bien sûr, on est tout le temps ici.
S'il
y a quelques petits projets, donc pour ça, on doit tout de suite aller dans la future. Par exemple, je dois avoir une t-shirt. Donc, tout de suite, je vais à quel type de t-shirt? Ou qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, mais c'est un petit trou. Voilà, donc, manger quelque chose, repas, ça ne vient pas tout de suite. On doit préparer. Pour préparer, on doit chercher les légumes et tout ça. Sans penser comment on peut préparer un repas.
C'est l'anticipation, tout ça.
Mais
quand on anticipe.
S'il y a lentilles ou pas, s'il y a le riz ou pas, comment on fait?
Alors,
s'il n'y a pas de futur.
Moi, je crois que le t-shirt,
c'est. Il y a une différence entre la pensée indienne et la pensée occidentale. On anticipe beaucoup plus que.
Oui, moi, je voudrais demander à Sarvatma si j'ai bien compris. Moi, j'anticipe beaucoup dans mes actions, mais quand j'anticipe, j'ai l'impression de le vivre au présent. Je prépare le futur au présent. J'ai beaucoup plaisir à anticiper, mais je suis dans le présent. Et je prépare le futur pour vivre bien le futur au moment où je le vivrai au présent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc à chaque fois, quand j'anticipe, pour moi, c'est important parce que je le vis bien au présent. J'adore préparer quelque chose à l'avance pour que ça se passe bien au présent.
Ça, c'est bien aussi. Mais je voudrais amener un autre aspect aussi.
Parce que j'ai pas pensé.
L'univers est conscient de nos rêves, nos désirs, nos frustrations. L'univers est conscient. Donc, ça, c'est pour toi que je dis ça. Si tu rêves, tu as envie d'avoir une maison, l'univers est conscient de ça.
Oui, peut-être l'univers est conscient. Mais mon présent, c'est fini. Mon présent, maintenant, si je rêve, avoir une maison, c'est déjà rêve, parce que je ne suis pas là. La même chose, je dis, si j'ai envie de manger quelque chose, dont il y a une rêve, je mange du dalbat, peut-être, ou je mange des momos. Donc, momo, il n'est pas là. Et puis, je dois aller dans le passé.
Qu'est-ce que peut faire Pong Chok tous les jours pour avoir une maison?
Alors, je vais donner des secrets. Alors, d'abord, déjà, remercier l'univers d'avoir donné ce rêve. Parce que même le rêve, ce n'est pas nous-mêmes qui a créé. Et s'il y a une question, ça veut dire qu'il y a une réponse. S'il y a une frustration, ça veut dire qu'il y a un assouvissement. Déjà, si ce besoin a été donné, ça veut dire que la maison va venir. Donc, on va fonctionner un peu à l'avance. On dit à l'univers, merci. Et cette gratitude va déclencher plein des événements dans notre vie. Et c'est miraculeux, c'est magique. Un jour, voilà, faire la maison.
C'est la pensée magique.
J'ai envie de dire un truc plus simple.
Ouais. Si... c'est pas très réaliste. Si. Et
non, c'était un exemple, oui.
Mais c'est un exemple très concret de tous les jeunes de ton âge.
Oui. Je voulais dire un truc très simple, c'est-à-dire que si nous, on sentait, par exemple, quand tu es avec moi, tu penses à ta maison, tu n'en serais pas très content, et peut-être que tu, petit à petit, alors qu'on ne pense pas du tout ça, on pense que tu es pleinement là avec nous, et que tu... comment dire, que tu partages avec nous, tu es vraiment complètement ce que tu es, que tu aimes ça, et que tu aimes ce que tu fais, et que sans doute qu'un jour tu auras ta maison, parce que si tu étais là avec ton idée, je fais ça pour avoir ma maison, nous on le sentirait, on le saurait, et on ne trouverait pas que tu es un bon guide.
C'était pas la question en fait.
Ah bon,
la question était, mais par contre,
moi je partage qui.
La question était la présence. Par exemple, je suis sur le présent, je ne peux pas donner mon concentration sur d'autres choses, par exemple, avoir une maison. Je ne peux pas, si je suis là.
Oui, tout à fait.
Et je dis ça, par exemple, préparer un repas. Si je suis là, comment je peux préparer un repas? Oui, je vais, avant de...
Tu dois faire des choses pour le faire, oui, c'est ça. Ça, je comprends.
Oui, donc, il y a des petites choses, aller avant, toujours. Oui. Ben je dois préparer avant, je dois aller dans ma cuisine. Donc c'est déjà dans la tête, je suis là, mais je dois aller dans la cuisine. Donc la cuisine, ça vient dans la tête, mais je suis ici, en fait. Et donc, présent, c'est fini.
Ouais, mais ton cerveau, il est capable de gérer les deux.
Gérer les deux, oui.
Là,
c'est je vais parler de mon expérience par rapport à Maître Mandir. Je n'avais rien, je n'avais pas de maison, rien du tout. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris des cartons, du papier, je l'ai découpé, j'ai fait un modèle, ce que je voulais construire. Et je partageais avec les gens, chaque fois, chaque occasion, quand je rencontre quelqu'un, je parle de mon rêve, j'ai envie de faire ça. Petit à petit, et quand je suis seul aussi, je commence à rêver. Le salle de bain, ça va être là, les gens qui vont dormir là, tout ça. J'ai tellement, tellement rêvé, c'est devenu une réalité. Mais ça ne va pas dire que je n'ai pas agi derrière. J'ai aussi fait des choses.
Mais le problème, c'est si tu es dans la rêve, si, ça, c'est la future.
Ouais.
C'est juste que tu n'es pas sûrement présent, c'est ça le problème, je dis.
J'ai pas besoin d'une maison. Mais c'est ça. Comment tu fais, par exemple, si on reste sur le présent comme ça. C'est ça que je dis. Je voulais savoir. Rester sur. Je sais pas.
Il y a deux choses en même temps.
Nous sommes capables de faire plusieurs choses. Parce que l'imagination, c'est très, très important, l'imagination. Action aussi, très important. Et avant de construire une maison, on fait un plan. Ça, c'est futur. Mais c'est l'image se fait dans le présent.
Voilà.
Donc, il ne faut pas séparer. Et
construire le futur dans le présent.
Ce que tu disais au départ.
Oui, tu pourrais dire, c'est pas une, je veux pas rigoler, hein, mais si je voulais avoir une maison aujourd'hui, je ferais cette maison-là. Là, t'es aujourd'hui, tu dessines ta maison aujourd'hui. Un premier pas, après, autre chose.
Oui, mais, avant de dessiner la maison ici, tu dois avoir une idée.
Oui, bien sûr.
Et cette idée de Pierre Laprison.
Oui, mais.
Et tout à l'heure, quand tu.
Tu n'es pas sur la réalité.
Mais ton cerveau, il est capable de vivre l'instant comme on le fait là, avec ton idée qui arrive, de la mettre dans une petite place dans ton cerveau, tout en continuant à prendre plaisir dans l'instant présent. Par contre, si tu quittes l'instant présent et que tu commences à modéliser ton idée du futur, là, c'est sûr que tu as perdu. Mais là, il y a peut-être des choses que tu as entendues ce soir qui se sont. Et que demain, tu vas te dire. Ça, c'est...
Et moi, je ne suis pas d'accord avec Christophe et Jacques quand ils t'ont dit. Il serait pas capable de t'écouter si tu parlais toujours de ta future maison.
Non, c'est pas s'il en parlait.
C'est pas ça.
Moi, j'ai pas dit ça.
Non.
J'ai dit que s'il faisait ça pour avoir sa maison,
quoi,
on le sentirait.
S'il venait
dans le groupe.
Que par intérêt.
Non, pas du tout.
Il se dit, je viens là parce que je vais gagner des sous et ça verra ma maison.
Même s'il faisait très bien son métier de guide, on sentirait qu'il fait ça
par intérêt.
Quand tu veux une maison, si ce qui est bien,
c'est la maison.
Je vais arrêter parce que.